With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour ce nouvel épisode avec une professionnelle de l'allaitement, c'est Émilie Chevalier que nous retrouvons. Vous la connaissez déjà si vous avez écouté l'épisode 4 sur les 11 idées reçues concernant l'allaitement. Émilie est consultante en lactation IBCLC, elle a suivi une formation spécifique sur les freins restrictifs buccaux. Elle va aujourd'hui nous parler de cette particularité anatomique qui se situe donc dans la bouche de votre bébé, des conséquences sur sa succion, votre allaitement et des manifestations que cela peut induire à court, moyen et long terme. Vous allez me dire « Ok, et après, on en fait quoi ?» Je vous réponds que suivra un épisode sur la prise en charge de ces freins restrictifs buccaux. Cet épisode-ci est chargé en informations. Pour continuer sur le sujet, je vous conseille le livre « Freins de langue » de Richard Baxter qui vient d'être traduit en français. Il est accessible aux professionnels, tout comme aux parents désireux de s'informer. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie, bienvenue dans Milkshaker.
Merci.
Émilie, ce n'est pas la première fois que tu viens me rencontrer pour Milkshaker. La première fois, tu nous avais parlé des 11 idées reçues sur l'allaitement maternel. Et aujourd'hui, tu nous reviens pour nous parler des freins restrictifs buccaux. Qu'est-ce que c'est qu'un frein restrictif buccal ?
Alors un frein, c'est ce qu'on appelle un fascia, c'est une fine membrane, donc c'est riche en collagène, ce qui explique qu'un frein ne peut pas s'assouplir, ne peut pas s'étirer, et donc on a tous des freins. L'idée c'est de regarder est-ce qu'ils sont restrictifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont poser un problème pour la mobilité de la langue et de la lèvre, par exemple.
Ok, très bien. C'est quoi les causes des freins ?
Alors, on sait que ça a toujours existé. On sait qu'il y a des choses qui vont les favoriser, notamment, alors, il y a une origine héréditaire. Alors, par exemple, si vous avez un premier enfant qui a des freins restrictifs, ça peut être intéressant chez les prochains de regarder effectivement s'il y a la même chose et à quel degré. L'environnement joue également un rôle important. Notre alimentation, le glyphosate, on sait, participe à la dégradation de la qualité des tissus. Et puis l'influence du mode de vie des générations passées. Donc, il y a eu beaucoup de bébés qui ont été au biberon. Il y avait moins d'allaitement il y a quelques années. Et donc forcément, il y avait une moins bonne stimulation de toute la mécanique de la succion, ce qui avait engendré une explosion du nombre de freins restrictifs.
D'accord, ok. À quel moment est-ce qu'on développe un frein de langue ou de lèvres restrictif ? À quel moment ça apparaît ? C'est pendant la grossesse ? C'est à la naissance ?
Alors, durant le premier trimestre de la grossesse, ce qui explique que quand un bébé va naître, il en a déjà en fait des manifestations. Il y a déjà, par exemple, des signes de tension, il y a un problème déjà de mobilité de langue, etc.
Ok. On va parler plus spécifiquement aujourd'hui de l'allaitement, mais c'est les freins de langue, vous allez le comprendre après, peuvent avoir des impacts sur bien d'autres choses que l'allaitement. Et un bébé qui serait biberonné peut très bien avoir un frein de langue restrictif qui pose problème.
Mmh, tout à fait.
Que ce soit, ça peut être visible même au biberon, et puis ça peut l'être moins. On va parler un peu plus spécifiquement de l'allaitement. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme signes qui peuvent laisser penser que mon bébé a un frein de langue, de lèvres ou de joues restrictif?
Alors, ce qui est important déjà, c'est que quand on rencontre des difficultés d'allaitement, oui, ça peut être dû à des freins restrictifs, mais ça peut être dû à plein d'autres choses. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, voilà, on va énumérer un certain nombre de signes, mais ça ne veut pas dire que si votre bébé, je ne sais pas, a besoin de téter fréquemment, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème de frein.
Oui, voilà. Ne vous jetez pas tête baissée sur mon bébé a un frein pour chaque symptôme qu'on va énoncer, même s'ils se multiplient entre eux. Mm-hmm. Les symptômes qui sont consécutifs aux freins de langue sont aussi des symptômes consécutifs aux tensions que génèrent les freins de langue. Et donc, voilà, il faut prendre les choses avec un tout petit peu de recul pour ne pas se jeter tête baissée dans la piste frein. Mais voilà, c'est important, s'il y a une ou plusieurs de ces choses qui sont présentes chez votre bébé, d'au moins se poser la question.
C'est
alors
ça.
Vas-y, Émilie, raconte-nous quel est l'impact sur l'allaitement de ces freins restrictifs.
Alors,
du coup,
on peut retrouver des douleurs et même carrément des crevasses chez la maman. Un bébé qui va ouvrir très peu la bouche, qui va prendre que le mamelon ou vraiment très peu d'aréoles. La maman va décrire une sensation de pincement, de frottement. Il n'y a pas forcément une douleur très marquée, mais la maman va dire que ce n'est pas agréable en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide.
Ok. Ça, c'est lié au fait que la langue, en fait, ou la lèvre, la bouche n'arrive pas à faire le bon mouvement pour la succion, n'arrive pas à attraper le mamelon, c'est ça?
Tout à fait. Le mamelon peut même être déformé. On peut avoir un mamelon qui va être aplati, en forme de bâton de rouge à lèvres, en biseau.
Ouais, quand il sort de la bouche du bébé, en fait, la pression que ça a mis fait que le mamelon ressort pincé ou en biseau. Ça peut être le cas aussi, typiquement, chez un bébé qui ne fait que serrer la mâchoire. Un bébé peut serrer la mâchoire à cause de son frein de langue ou de lèvres, mais il peut aussi la serrer parce qu'il est tendu. Et ça va donner
douloureux,
la même chose.
Voilà, pour plusieurs raisons. On peut également retrouver des mastites à répétition, canal bouché. Donc ça vient du fait que le sein n'est pas drainé correctement. On peut également retrouver des candidoses mammaires à répétition. Ce qu'on appelle candidose mammaire, c'est la mycose du sein. Mm-hmm. Et alors pourquoi à répétition? En fait, quand il y a un frein restrictif de langue, la langue, elle est donc bloquée sur ses principaux mouvements, notamment monter au palais, se plaquer le long du palais. Et normalement, l'enfant, une fois qu'il a tété, la langue se plaquant au palais, elle va frotter sur ce palais et donc s'auto-nettoyer. Si la langue, elle ne peut pas se plaquer au palais, va y avoir une stagnation de lait, ce qui peut engendrer des mastites, des candidoses à répétition. Pardon.
Ok.
Alors c'est important ça, le fait de prendre, enfin, de dire que chaque symptôme énuméré là, c'est pas forcément le frein n'est pas forcément la cause, parce que des candidoses mammaires on en voit assez régulièrement malheureusement, et les candidoses mammaires ça peut être en lien avec une prise d'antibiotiques chez la maman voire même chez le bébé. Ça se développe plus volontiers chez des personnes qui sont fatiguées, et quoi de plus fatigué qu'une jeune maman? Mm-hmm. Enfin voilà.
Voilà. Donc là typiquement c'est le ouais, motif parfait.
Donc,
pour
attention,
dire
voilà,
candidose n'est pas égal à frein.
Tout à fait. Ça peut également donner un bébé qui va s'endormir rapidement au sein, qui va du coup peiner aussi à prendre du poids.
Parce qu'il fatigue en fait, il a du mal à téter.
Tout à fait. Ou alors au contraire, on a tout l'inverse, on a des fois des bébés qui font des superbes démarrages au niveau de la prise de poids, ils explosent la courbe de poids. Et il va y avoir par contre possiblement un ralentissement après vers 3-4 mois quand la maman va passer en lactation autocrine, parce qu'en fait depuis le début ce bébé ne tète pas de manière optimum. Mmh. Et au moment où la maman n'est plus dépendante des hormones par rapport à la production de lait, enfin lait beaucoup moins en tout cas, et ben le bébé aura plus de mal à obtenir du lait et donc forcément le poids ne va pas forcément suivre.
Ok, ouais, donc oui, au début par contre le sein produit un peu tout seul pour faire la différence entre autocrine et production autocrine ou pas. Est-ce que tu peux juste rappeler cette notion, parce que je pense que c'est important?
Alors, au début, on est justement très dépendante des hormones, ce qui veut dire qu'en gros, le bébé, même s'il ne tète pas de manière optimum, va y avoir quand même une certaine production qui va s'installer. Alors, par contre, ce qu'on sait par rapport au frein, justement, c'est que, enfin, frein ou pas frein d'ailleurs, il est très important qu'il y ait des tétées très fréquentes au début, vraiment de proposer aux signes d'éveil, de proposer les deux seins à chaque tétée, etc. C'est vraiment important, on le sait maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au début de l'allaitement. Et donc, même un bébé qui n'a pas une succion optimum, si au début, voilà, il a le sein vraiment très régulièrement, eh ben, il va bien lancer la lactation, ce qui va du coup éviter cette baisse de prise de poids par la suite, en fait.
D'accord.
On va bien lancer les choses, et ça, c'est important.
D'accord, ok. Et après, passé quelques mois, on passe en production autocrine, et donc là, c'est vraiment le sein qui produit en fonction de ce que le bébé lui demande. Et c'est là que
tout
ça peut se dégringoler, parce que la succion n'est pas optimale, donc la stimulation ne l'est pas, donc la production n'est pas optimale.
C'est
non
ça.
Plus. Ok.
Du coup, on peut retrouver également un bébé qui va s'étouffer fréquemment au sein. Et également des bébés qui peuvent avoir du mal à s'accrocher au sein. Ils vont faire ce qu'on appelle le pivert. Je ne sais pas si vous voyez l'oiseau qui tape dans le... qui donne des coups dans l'arbre. Bah, c'est à peu près pareil, quoi. On voit qu'ils cherchent, mais ils n'y arrivent pas.
Ouais, ils n'arrivent pas à s'accrocher. Ils partent, ils reviennent.
Tout à fait.
Des bébés qui tètent très fréquemment ?
Alors, un bébé qui tète... Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bébé qui tète très fréquemment ? C'est vaste. C'est-à-dire qu'un bébé, oui, va téter très régulièrement. Surtout au début. Il y a certaines tétées qui sont plus rapprochées, des tétées qui vont être plus espacées. Quand on parle d'un bébé qui va téter très fréquemment, c'est bébé hors pic de croissance qui va jamais sembler satisfait, en fait. Jamais sembler satisfait. On voit qu'il a besoin du sein quasiment en permanence pour être bien et pour paraître apaisé.
Non, c'est qu'en fait, il n'a pas ce qu'il veut, donc il est obligé d'y retourner un peu tout le temps et il n'est pas confortable entre les deux. Ce serait
Alors,
ça
soit il peut téter très fréquemment parce qu'il a du mal à obtenir du lait, donc il a besoin de téter très fréquemment pour avoir une certaine quantité. Ça peut venir aussi d'autres choses, c'est que, toujours en rapport avec la langue qui a du mal à s'élever au palais, normalement la langue se plaquant au palais, ça va stimuler une certaine zone du cerveau qui va faire que le bébé va réussir à s'auto-apaiser, enchaîner les cycles de sommeil. S'il n'arrive pas à plaquer sa langue, eh ben, du coup, il va avoir besoin du mamelon de sa maman pour justement stimuler son palais.
Donc voilà, il a envie d'être au sein, même pas forcément pour manger du coup, mais aussi pour s'apaiser
tout
court. Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui espacent les tétés ?
Alors oui, typiquement, ça va être les bébés tétés avec un frein restrictif. Eh bien oui, c'est fatigant. Moi, en général, comme image, je donne toujours, si vous prenez une haltère, vous essayez de muscler votre bras, vous relevez le bras. Et le frein, c'est comme si à chaque fois que vous essayez de lever votre main avec l'haltère, eh bien moi, je vous la repousse vers le bas, en fait. Et donc ça, surtout
pas
les succions, eh ben c'est vraiment, ça demande un effort supplémentaire et donc ça peut donner des bébés qui vont se fatiguer très vite. Typiquement des bébés qui peuvent se mettre en économie d'énergie assez rapidement, qui manquent d'énergie, vont pas forcément pleurer pour réclamer. Du coup, on va se dire, s'il pleure pas, ça veut dire qu'il a pas faim. Et en fait, les bébés vont de plus en plus dormir et espacer leur tétée.
D'accord.
Et on peut se faire facilement piéger.
Ok, donc ça c'est l'allaitement en lui-même. Est-ce que je peux voir des signes sur mon bébé qui peuvent m'alerter ?
Oui, donc du coup là pour le coup, que ça soit allaitement ou pas allaitement, ça peut donner un bébé qui va avoir ce qu'on appelle des ampoules sur les lèvres, c'est-à-dire des zones plus claires. Alors ça peut faire on parle souvent de l'ampoule centrale sur la lèvre supérieure, mais ça peut donner vraiment des ampoules tout le long de la lèvre supérieure et même inférieure. En fait, c'est le signe ça que bébé va forcer pour garder le sein ou le biberon en bouche.
Oui, la lèvre chauffe en fait.
Exactement. Alors, encore une fois, des gros guillemets là-dessus, c'est-à-dire que des bébés qui ont des ampoules sur les lèvres, il y en a plein à la naissance, parce que c'est des signes de tension, et un bébé peut être tendu pour mille et une raisons, autres que les freins.
Oui, les freins y compris.
Voilà.
Ok.
Ça peut donner un bébé qui pleure beaucoup, qui dort peu, un bébé qui est inconfortable au quotidien. Mm-hmm. Peut également y avoir associé à un inconfort digestif, c'est-à-dire de nombreux rots, des gaz, des reflux douloureux, des maux de ventre. Donc ça, c'est pas le frein en lui-même, c'est juste que le bébé, en tétant, il va avaler beaucoup d'air. Mm-hmm. Et donc forcément, beaucoup d'air dans l'estomac, dans les intestins.
Ça fait pression sur l'estomac, ça remonte plus facilement.
Tout
l'air qui rentre à l'intérieur du corps de votre bébé doit d'une façon ou d'une autre ressortir. Et si de surcroît, les rots sont pas faciles à faire sortir, ça va faire tout le système digestif. Et là, on rentre dans les fameuses coliques du nourrisson parce que le bébé a le bide plein d'air et que l'air dans le ventre, ça fait mal.
C'est ça. Un ictère prononcé dès la maternité. Un bébé qui va pleurer aussi beaucoup dans le cosy. Donc ça, c'est en lien également avec les tensions. Donc c'est pareil, un bébé peut pleurer dans le cosy, pas forcément que à cause des freins. On peut également entendre ce qu'on appelle un claquement de langue lors de la succion. Alors c'est valable au sein et au biberon également. C'est-à-dire un espèce de petit clic
T'arrives à nous le mimer.
Voilà, ça fait ça, des bruits comme ça là. Alors, c'est des bruits qu'on peut prendre pour des bruits de déglutition. Souvent, j'ai des parents qui me font la remarque, mais non, c'est de la déglutition. Non, déglutir, ça ne fait pas ce bruit-là. Donc voilà. Ça,
c'est la langue qui lâche en fait dans la bouche, qui a son mouvement d'ascension et de redescente, à un moment lâche la pression parce que c'est trop dur à faire.
Maintenir, ouais.
Et du coup, ça fait vraiment un bruit de claquement, mais à l'intérieur d'une bouche qui est fermée. Donc ça fait un claquement dans une grotte un peu.
Ça peut aussi donner ce qu'on appelle une langue en forme de cœur. C'est-à-dire que quand l'enfant va essayer de tirer la langue vers l'avant, c'est censé faire une pointe, et là, ça va faire une retenue centrale. Donc ce qu'on appelle une forme de cœur. En fait.
Ouais. Ça fait vraiment un cœur, ouais.
Voilà. Ça peut donner des torticolis à répétition, donc en lien avec les tensions cervicales. Un bébé qui va se tenir en C, en virgule, au choix, qui aura du mal à se tenir droit.
Ouais, ça, c'est des motifs typiquement qu'on voit, nous, ostéopathes ou chiropracteurs, arriver au cabinet d'un bébé qui a une posture en virgule, en C, avec un torticolis plus ou moins présent depuis la naissance. Et moi, je sais que je vais des formations professionnelles depuis que j'ai été formée, mais du coup, je regarde un peu systématiquement s'il y a des freins restrictifs ou non. Mais un bébé qui aurait une posture comme ça, un torticolis, une plagiocéphalie ou autre, et qui ne se réglerait pas, où le schéma revient tout le temps, c'est une vraie question à se poser. Y a-t-il un frein ou des freins restrictifs buccaux qui font que ça génère des tensions cervicales qui ne parviennent pas à lâcher, même au traitement, ou qui partent mais reviennent toujours? Voilà, c'est une vraie question à se poser si votre bébé, malgré les traitements manuels, reste coincé.
Oui, c'est important, c'est-à-dire qu'un bébé qui a un torticolis, qui a du mal à tourner la tête d'un côté, on peut faire une première séance avec un ostéo ou un chiropracteur. Ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce que ça revient? Et si ça revient, là, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire, mais mince, pourquoi ça revient? C'est quoi la cause?
Oui, moi, j'ai vu plus d'une fois des bébés avec des torticolis que je trouvais difficiles à traiter se libérer nettement plus facilement suite à une fréno. Une section de frein, pardon.
Et du coup, ces bébés qui vont tourner plus la tête d'un côté, qui vont se tenir d'une certaine manière, ça va majorer tout ce qui est plagiocéphalie, c'est-à-dire la tête plate, tout ce qui est asymétrie au niveau du crâne, du visage. Donc,
Parce que le corps grandit en fonction des appuis qui lui sont imposés. Et donc, si le bébé est toujours dans la même position, le corps va grandir sur une asymétrie.
Voilà. On peut également retrouver ce qu'on appelle la rétrognathie, c'est-à-dire le menton qui va être rentré vers l'intérieur. Ça peut donner également des bébés qui vont avoir ce qu'on appelle une hypersalivation. Donc des bébés qui bavent beaucoup.
Parce qu'ils ne gèrent pas leur bave en fait dans la bouche, c'est ça ?
Voilà, la déglutition est compliquée. Donc du coup, c'est pareil, c'est intéressant de regarder un bébé qui va être en poussée dentaire, qui va beaucoup saliver. Bon, oui, ça paraît logique. Mais un bébé qui quasiment depuis la naissance hypersalive, et c'est encore le cas tout le temps, au fur et à mesure des mois, là... Ça peut être intéressant de se demander pourquoi. Et on peut aussi retrouver ce qu'on appelle un fort réflexe nauséeux. Donc, c'est des enfants qui vont tirer facilement au cœur quand ils prennent le biberon, la tétine, le petit doigt, même le sein. Ça peut être dû au fait que la langue ne pouvant pas bouger correctement, elle ne va pas stimuler certaines zones dans la bouche. Et donc, ces zones vont être hypersensibles.
OK.
Voilà. Alors... Moi, ce que je trouve qui est très important, c'est que les parents, encore une fois, faites-vous confiance parce que souvent en consultation, alors soit c'est très franc, il y a vraiment beaucoup de signes et c'est pour ça qu'on m'a appelé, mais il y a un certain nombre de cas où on m'appelle, où finalement l'allaitement se passe pas si mal que ça. Et en fait, les parents me disent, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui bloque, on a un bébé qui nous paraît... Alors, c'est pas horrible, il pleure pas tout le temps, mais il nous paraît pas confortable. Puis, il a quand même des douleurs gastriques. L'allaitement se passe bien, mais il s'étouffe quand même souvent. Enfin, c'est pas parfait. Et généralement, vous avez tout bon, en fait. Vous savez depuis le début qu'il y a quelque chose qui cloche.
Donc ça, on l'a déjà dit plein de fois dans Milkshaker, mais juste faites-vous confiance, c'est vous les experts de vos bébés, en fait. Nous, on est là juste pour vous guider de temps en temps sur la route, pour vous donner un petit coup de pouce, mais c'est vous qui savez quand ça va ou quand ça va pas.
Oui. Et donc, les freins, le souci, on va dire, c'est que ça peut avoir un impact sur l'allaitement, ça peut avoir un impact sur la prise du biberon, mais ça peut avoir un impact également sur l'enfant et sur l'adulte. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de voir s'il y en a un et de mettre des choses en place en fonction de ce qu'on va voir.
Voilà. Et alors, quel impact ça peut avoir à terme sur une vie d'enfant ou d'adulte, ces freins restrictifs, si ce n'est pas pris en charge, évidemment?
Alors déjà, pour rester sur le plan de l'alimentation, ça peut donner des difficultés au moment de la diversification alimentaire. Parce que du coup, on va reprendre notre bébé qui a un fort réflexe nauséeux. Et bah, du coup, une alimentation plus solide va potentiellement poser problème. Alors, ça donne pas forcément un tableau catastrophique, et heureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Mais ça peut donner un enfant, par exemple, qui, bon, à la purée, ça va aller. Et puis à l'introduction des morceaux, eh ben, ça va être plus compliqué. On voit que c'est pas fluide. Un enfant qui va sélectionner les aliments, qui va tolérer certaines textures et pas d'autres, qui va préférer les aliments plutôt froids et les aliments plus chauds, et ben ça va lui donner des hauts le cœur. Voilà. Donc ça peut vraiment avoir un impact sur l'alimentation de l'enfant et même de l'adulte. Après, on voit des adultes qui décrivent très bien ça, qui disent voilà, il y a des textures, je ne les supporte pas en bouche en fait.
Ok, ouais, ça a créé secondairement un trouble de sensorialité en fait dans la bouche.
C'est ça. Ça peut également donner un enfant qui par la suite va être accro au pouce ou à la tétine. Mm-hmm. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, donc la langue, elle se plaque au palais, permet de s'auto-apaiser et permet d'enchaîner les cycles de sommeil. Donc forcément, si l'enfant ne peut pas le faire, eh ben il va prendre le pouce ou la tétine pour pouvoir combler ce manque.
Oui, d'accord. Il vient créer cet appui, encore une fois, que la langue ne peut pas faire. Et tant que ce n'est pas traité, il va continuer de faire ça.
Oui. On peut également retrouver des problèmes d'orthodontie. Donc du coup, c'est toujours en lien avec notre petite langue qui ne va pas pouvoir venir se coller au palais. Mm-hmm. Et du coup, le palais va plutôt être étroit, creux. Et du coup, une petite mâchoire qui va se développer autour et pas assez de place pour les dents. D'ailleurs, on n'a pas évoqué au niveau de l'impact sur le bébé pour les freins restrictifs. Oui. On peut retrouver des bébés qui dorment la bouche ouverte, du coup, alors que normalement, on doit dormir bouche fermée avec la langue complètement plaquée au palais.
Et une respiration nasale.
Tout à fait, voilà. Et donc là, c'est plutôt des bébés qui ont la bouche ouverte et la langue en bas.
Ok, toujours pareil, fonction du degré aussi de restrictivité de ces freins.
Oui, parce qu'on peut très bien avoir l'avant de la langue qui est plaquée, mais pas l'arrière. Enfin, tout est possible, en fait.
Ok. D'autres choses encore dans les impacts sur l'enfant et l'adulte en devenir?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On peut également retrouver des problèmes d'articulation. Par exemple, pour certaines consoles, on va venir plaquer normalement la langue vers le haut. Mm-hmm. On peut également retrouver des douleurs dorsales, des tensions cervicales, mm-hmm. ce qui peut amener également des migraines récurrentes.
Mm-hmm. Oui, quand on parlait d'articulation, on parlait d'articulation diction. Hein.
Oui, tout à fait.
Ça ne crée pas particulièrement un problème d'articulation
oui.
au sens articulation un genou, quoi.
C'est ça.
C'était l'articulation des mots.
Exactement. On peut retrouver de l'apnée du sommeil. Donc la respiration buccale également qui va engendrer un sommeil qui est moins réparateur. Parce que quand on dort la bouche fermée, qu'on respire par le nez, on oxygène un petit peu mieux son cerveau. Mm-hmm. Ça peut également engendrer des troubles ORL, par exemple mm-hmm. des otites à répétition. Alors c'est pareil, ça à prendre avec,
avec des pincettes,
des pincettes ouais, parce qu'un enfant qui fait des otites, c'est pas non plus, enfin c'est quelque chose de courant et pas anormal de par la position de la trompe d'Eustache, etc. Mm-hmm. Mais voilà, c'est la répétitivité qui peut amener à se dire...
Ça peut laisser penser à, tiens, voilà. Il faudrait peut-être qu'on vérifie qu'il n'y avait pas un frein de langue là-dessous qui pourrait être la cause de tout ça. Toujours pareil, avec un peu de conditionnel autour de tout ça, c'est que c'est pas parce que vous avez un frein de langue que vous aurez... l'un de ces problèmes ou tous ces problèmes cumulés, c'est fonction de la restrictivité du frein et puis il y a certains symptômes ou certaines manifestations qui vont être là chez certaines personnes, pas du tout chez d'autres et inversement. Donc c'est vraiment
c'est du cas par cas.
C'est du cas par cas. Voilà, tout à fait.
Et on sait également qu'il y a un lien entre allergie et frein restrictif buccaux. Donc des conséquences, il y en a plein. On pourrait y passer la journée, donc mm-hmm. Là, on a rétréci la liste. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, oui, c'est du cas par cas. Et en deuxième partie, que les freins restrictifs ne gênent pas que pour l'allaitement. parce que c'est souvent ce qu'on entend là, de la part de certains professionnels. Donc non, ça, il faut voir vraiment au-delà de l'allaitement. Donc il ne suffit pas, entre guillemets, d'arrêter l'allaitement, de passer à des biberons de lait artificiel pour que ça y est, le problème soit réglé.
Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'un frein de langue très restrictif sur une tétine de biberon peut tout à fait être un bébé qui ne ventouse pour autant pas bien son biberon, qui prend quand même beaucoup d'air. Voilà, donc il ne faut pas voir le passage au biberon comme la solution
miracle
au problème de frein de langue, ni l'allaitement comme le problème de ce bébé, mais plutôt voilà, le frein de langue et les tensions qui sont générées autour qui posent problème maintenant et peut-être pour la suite ou pas. Voilà.
C'est ça.
Ok, alors maintenant, bon bah, si je pense qu'il y a plusieurs signes qui m'alertent et je me dis, tiens, j'ai quand même l'impression que mon bébé pourrait avoir un frein restrictif buccal, qu'est-ce que je dois faire ?
Alors, le mieux, c'est de vous tourner vers une personne qui soit formée, sensibilisée aux freins restrictifs pour qu'il puisse vous donner son avis. Donc, ça peut être une consultante en lactation IBCLC, une sage-femme, un ostéopathe, un chiropracteur, une doula, une monitrice de portage. Enfin bref, toute personne qui s'est intéressée de près à cette problématique. Et ensuite, c'est un médecin, un pédiatre, un ORL, un pédodentiste qui confirmera la présence de ce frein restrictif.
Ok. Comment je peux savoir si cette personne est bien informée ? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle va me dire ou des questions qu'elle va me poser qui peuvent me rassurer ?
Alors, normalement, cette personne va vous poser une multitude de questions. L'idée, c'est d'avoir un aperçu général. Donc, comment se passe l'allaitement ou comment s'est passé l'allaitement ? Comment se passe la prise du biberon ? Est-ce que votre bébé vous semble confortable ou au contraire très inconfortable ? Est-ce qu'il dort bien ? Enfin, voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Et donc ensuite, la personne va regarder s'il y a des signes de tension et la mobilité de la langue ainsi que la mobilité de la lèvre. Donc en gros, est-ce que la langue, elle se plaque complètement au palais ? Est-ce que bébé peut la tirer vers l'avant ? Est-ce qu'elle peut se latéraliser, aller sur les côtés ? Mmh. Est-ce qu'on peut recouvrir les narines avec la lèvre supérieure ? Bref, ce qui est important, c'est qu'une personne qui normalement sait détecter un frein restrictif va mettre les doigts dans la bouche de votre bébé. On ne peut pas juste en regardant un bébé... Par exemple, un bébé pleuré, on ne peut pas juste dire avec ça, oui ou non, il n'y a pas de frein restrictif. Alors, ça fait partie de l'évaluation, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment un ensemble de choses à regarder. Et ça nécessite effectivement d'aller regarder soi-même avec ses doigts la mobilité de la langue, entre autres.
Ok. Très bien. Et alors, un professionnel a détecté un frein restrictif chez mon bébé. Il confirme ce diagnostic-là. Quelle solution s'offre à moi ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?
Alors, on va dire qu'il y a deux possibilités. La première, c'est de se tourner vers une intervention, ce qu'on appelle la frénotomie, c'est-à-dire de faire sectionner le ou les freins restrictifs. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que cette intervention, c'est vous, parents, qui allez décider de la faire ou pas. Personne ne peut vous forcer à la faire ou à ne pas la faire, d'ailleurs. Donc, il faut vraiment y réfléchir. C'est hyper important. Donc, il faut... peser le pour et le contre, regarder ce qui à l'instant T ne va pas, s'informer, voilà, il faut vraiment prendre du temps, ce n'est pas une urgence, hein, le pronostic vital de l'enfant n'est pas mis en jeu, il n'y a pas de risque pour sa vie, donc on prend le temps d'y réfléchir et si on va à l'intervention, il faut être sûr de soi à 3000%.
Ok.
Voilà, ça c'est hyper hyper important. Et donc, qu'il y ait intervention ou pas intervention, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il faut vraiment un accompagnement pluridisciplinaire. Parce que du coup, voilà, on l'a vu avant, les freins restrictifs, ça a un impact sur énormément de choses. Ça ne s'arrête pas à juste un morceau de peau sous la langue ou au niveau de la lèvre. Donc, il va falloir... Enfin, faut pas hésiter à contacter une consultante en lactation s'il y a des soucis au niveau de l'allaitement, parce qu'il y a des moyens d'optimiser une lactation et une prise au sein. C'est également utile de voir un ostéopathe ou un chiropracteur pour travailler sur les tensions. Il ne faut pas hésiter également à se tourner vers une orthophoniste ou une ergothérapeute y a une hypersensorialité, si on a un enfant qui a un réflexe nauséeux très important. Alors ça, c'est également très très important de prendre ça en compte parce que par exemple, une frénotomie sur un enfant qui a un fort réflexe nauséeux, ce n'est pas top. En fait, le mieux, c'est de travailler avant sur cette hypersensorialité pour pouvoir aller sereinement vers l'intervention parce que l'intervention pourrait majorer ce réflexe nauséeux.
Ok, oui, donc il faut toujours faire bien attention à tout ce qui satellite autour de ce frein, de ce souci anatomique en lui-même pour prendre la décision ou pas de l'intervention, mais au bon moment.
C'est ça, et dans les meilleures conditions possibles. Et, là aussi, il y a des personnes qui sont très importantes, c'est vous, parents, parce que vous allez mettre en place des exercices pluricotidiens qui ont pour but d'aider la langue à se muscler, dans le but de détendre les parties autour des freins, de travailler aussi sur les tensions. Et tout ça, ça va permettre aux freins, une fois que l'intervention est faite, de ne pas se reformer de manière restrictive. Ça va également permettre une amélioration rapide après l'intervention. Et s'il n'y a pas d'intervention, ces exercices vont permettre quand même que la succion puisse être la plus optimum possible et les conséquences les moins importantes possibles.
Ok, ouais, donc les parents ont un gros rôle à jouer finalement dans cette équipe pluridisciplinaire.
Énorme. L'intervention, c'est pas magique, malheureusement. C'est loin d'être le cas. Donc ça représente vraiment qu'une infime partie de la résolution du problème.
Oui, parfois on voit ça comme une finalité. Il y a un frein de langue, on va le couper et il n'y en aura plus et tout ira bien. Mais non, il y a toute une cascade de choses autour mais qui ne vont pas se régler aussi vite que la section.
Exactement.
En elle-même. En tout cas, pas forcément.
Alors, suite à l'intervention, il y a une modification qui va se produire quand même. Les mamans, elles disent que par exemple sur un allaitement, elles sentent qu'il y a une différence sur la succion de leur bébé. Alors, il y a des mamans effectivement qui vont vous dire « j'avais hyper mal avant, une fois que l'intervention a été faite, ça a été immédiat, je n'avais plus mal ». Franchement, tant mieux, mais c'est loin d'être la majorité des cas. Donc généralement, la maman, elle dit « il y a eu une modification » et puis petit à petit, les choses vont s'améliorer. Donc ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, il faut faire preuve encore de patience, et ça c'est pas toujours évident, on comprend très bien, mais voilà, c'est la réalité. Donc il faut que la langue, elle continue de gagner en force, il faut qu'on continue de travailler sur les tensions, il faut que tous les mouvements succion-déglutition se synchronisent bien, c'est un véritable bouleversement dans la bouche d'un enfant. Voilà, ça prend du temps, et c'est normal. Donc il y a des symptômes qui vont mettre plus ou moins de temps à disparaître, notamment le claquement de langue, parce que c'est un symptôme dont on entend souvent parler. Le claquement de langue, il peut mettre des semaines, voire des mois à partir, même si le frein ne s'est pas reformé de manière restrictive. Donc ne vous inquiétez pas, ça veut tout dire et rien dire. Ça signifie juste que voilà, il faut encore du temps. C'est très progressif, exactement. Moi j'ai l'habitude de dire que le jour de l'intervention, il faut imaginer, il y a un petit curseur, on est à 100% de problème, et ce petit curseur, eh ben, de jour en jour, il baisse en fait. Voilà. Donc ça permet de ne pas être déçu, de bien comprendre que c'est progressif, et en fait un jour vous verrez, vous vous réveillerez, vous vous direz ah, finalement, voilà, on est par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, à 2-3 semaines de l'intervention, ah ben, ouais, ben, en fait en regardant ça va vachement mieux. Alors c'est pas parfait, mais Ouais, il y a ça qui va mieux, puis il y a ça qui va mieux. Il faut regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, en fait.
Ok. Un frein, ça peut être coupé. Donc là, on parle des nourrissons. Pour la partie allaitement, c'est souvent assez tôt, finalement, qu'on les sectionne dans les premiers mois de vie. Mais ça peut être coupé plus tard.
Alors, même sur un allaitement, hein, ceci dit, voilà, il y a des parents qui ne veulent pas le faire sectionner tout de suite parce que ça peut faire peur, parce que, on se dit, bah, bébé tout petit, il vient à peine d'arriver, on va déjà lui faire un geste invasif, parce que oui, c'est un geste invasif, il ne faut pas minimiser les choses. Donc on a peur ou on ne se sent pas de le faire là, on ne se sent pas de faire les exercices aussi intensifs que ce qui est recommandé. Donc on préfère différer cette intervention, c'est possible. Même une frénotomie à l'âge adulte, on va y gagner. Simplement, c'est sûr qu'un bébé est plus malléable, il est en pleine croissance, donc l'amélioration sera plus importante et plus rapide aussi à se manifester. Mais tout est possible. Il y a simplement une tranche d'âge où c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est différent selon les enfants parce que voilà, ils sont tous différents, mais entre 1 et 3 ans, on va dire que ça peut être un peu plus complexe de faire une frénotomie. Parce que voilà, il faut tenir l'enfant, c'est une anesthésie locale dans la majeure partie des cas. Il y a les dents, donc le praticien, c'est moins évident pour lui de passer. Il faut que l'enfant soit coopérant pour les exercices. Et un enfant de 2 ans, par exemple, bah, c'est pas forcément évident parce qu'il ne comprend pas pourquoi à cet âge-là. C'est compliqué de comprendre pourquoi on lui fait faire ça. Donc ça va amener du stress chez tout le monde, une reformation potentielle du frein, enfin... voilà, donc
oui, et puis des expériences potentiellement désagréables dans une bouche qui avait peut-être déjà des problèmes. Donc voilà, il y a des âges ou des moments de vie qui peuvent être un peu différents en fonction des enfants, mais c'est vrai que de 1 à 3 ans, les enfants globalement ne sont pas toujours coopérants.
C'est ça.
Et donc l'idéal, c'est si c'est possible en tout cas de différer dans cette période. Après, si c'est un cas où le frein est très impactant, c'est possible quand même.
C'est possible, on peut avoir recours à une anesthésie générale rapide hein, pour faire ce geste. Mais voilà, du coup, c'est des cas quand même particuliers.
Ok, et alors si on n'intervient pas sur notre chouchou parce que bah, soit on ne s'est pas senti de le faire, soit on était dans une situation, un entre-deux où on s'est dit ce serait bien, mais bon, ce n'est pas dramatique non plus. Qu'est-ce que je peux faire en attendant pour accompagner mon enfant ?
Eh ben, vous pouvez consulter des gens donc voilà qui connaissent la problématique des freins, mettre en place certaines choses par rapport aux soucis qui vont se présenter. J'ai envie de dire que le plus important dans l'histoire, c'est que voilà, à partir du moment où vous savez qu'il y a des freins restrictifs, ben déjà vous êtes en alerte. Voilà, vous allez vous dire voilà, s'il y a telle ou telle chose qui arrive, ok, ben, potentiellement ça peut être dû aux freins, donc je vais me tourner vers les bonnes personnes. Donc par exemple voilà, un enfant de 3 ans qui a du mal à articuler, qui a du mal à prononcer certaines consonnes, et ben on va se dire tiens, je vais aller voir un spécialiste, une orthophoniste par exemple, pour travailler là-dessus. Voilà, c'est déjà énorme parce qu'en fait voilà, vous savez qu'il y a quelque chose et du coup dès les premières manifestations, vous allez déjà agir. Et ça, ouais. C'est déjà énorme, en fait.
Ok. Bon. Est-ce qu'on a tout dit de ce qu'on voulait ?
Oui. Après, pour finir, voilà, sur l'allaitement, parce que c'est plus ma partie à moi. Donc, sur l'allaitement, si jamais, par exemple, quelqu'un vous dit bah, votre bébé a un frein, voilà, que vous l'allaitez, ça ne veut pas dire que l'allaitement est foutu.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler.
Voilà, j'ai des fois des mamans où ça se passe pas trop mal, voire même bien, et à qui on a dit, voilà, il y a un frein, du coup on m'appelle pour confirmer ou pas, et enfin pour avoir mon avis en tout cas, voilà, ne vous dites pas, bah, alors ça y est, c'est foutu, je voulais tendre vers un sevrage naturel, c'est impossible, bah non, c'est pas impossible, c'est vraiment du cas par cas, et si jamais il y a des problèmes qui arrivent sur l'allaitement, des baisses de lactation, enfin voilà, diverses choses, il y a des solutions à tout, donc on peut mettre en place des choses. Voilà, il y a vraiment y a moyen de faire en sorte que votre allaitement puisse aller aussi loin que vous en aviez envie à la base.
Ok, et un petit laïus quand même, parce qu'on parle d'allaitement dans Milkshaker, mais il n'y a pas que des bébés allaités. Pour si vous nous écoutez, que vous avez un bébé qui a été biberonné, qui est biberonné ou autre, et qu'il y a certains de ces signes voilà, qui s'accumulent chez ce bébé, il n'y a pas non plus de raison au biberon d'avoir plein de problèmes. Et une succion au biberon peut être bonne malgré tout. Voilà, si vous voyez des choses se cumuler, tel symptôme, telle manifestation, ça peut être tout à fait intéressant. On ne coupe pas des freins de langue, encore une fois, on l'a déjà dit, que pour l'allaitement. On les coupe aussi pour les conséquences que ça peut avoir à terme. Donc, de la même façon, consultez des gens qui se sont sensibilisés à ce sujet pour vous accompagner.
Faites-vous confiance parce que vous savez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets.
Ok. Ouais, ça, voilà. On va finir sur ça. C'est toujours les parents qui savent s'il y a quelque chose qui cloche chez leur loulou. Donc, faites-vous confiance. Ok, merci beaucoup, Émilie, d'être revenue à Milkshaker avec moi. On se retrouve peut-être bientôt pour
Au
un
plaisir.
Nouvel épisode. D'ici là, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud. The voices in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there. I'll be there. Oh, I'll be there. I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself. But I hope you know I care.
get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I guide you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.